Puis très heureux de vous retrouver pour vous parler. La dernière fois, c'était en janvier, c'était sur la Bible, sur la lecture de la Bible. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je me disais à ce moment-là que c'était une chose fondamentale, très importante, que je vous avais dit là. Et puis je me rends compte que chaque fois quand on vient ici, on dit des choses très, très importantes. Pas nous, évidemment, mais ce qui est dit est important parce que ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas venir ici chaque dimanche matin, on ne peut pas prendre la parole, prier, chanter, si ce n'est pas très très important. Si c'est une réunion de copropriétaires, comme on pourrait croire dans les épîtres des Romains dont on va parler, où c'est Paul qui simplement essaie de planifier une situation entre les anciens occupants, les nouveaux occupants, les colocataires, ça n'a aucun intérêt. Nous sommes ici parce que c'est extrêmement important, parce que ce sont nos vies qui sont en jeu à chaque fois. Sinon, nous ne serions pas chrétiens, nous ne lèverions pas pour venir ici dimanche matin, et nous n'aurions pas au fond de nous cette envie perpétuelle de revenir, de partager, de prier, de discuter au sens noble du terme autour de la parole de Dieu. C'est parce que c'est fondamental. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore plus fondamental que les autres fois. Ce qui est évidemment faux. Ça sera tout autant la semaine prochaine. Mais il faut être, et je le suis, et vous l'êtes évidemment, imprégné de cette importance de notre présence ici, de la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là parce que nous sommes des êtres vivants de passage, parce que nous sommes déjà morts et que Dieu nous offre la vie. C'est extraordinaire. Tout le reste ne tient pas. Tout le reste n'est que peanuts. Tout le reste est temps perdu. Temps passé agréablement. Soit il y a un bon match de foot, Paris Saint-Germain-Marseille, je suis très très content. Mais en soi, ça n'a aucune importance. Gardons cette échelle de valeur. Ne venons pas chaque dimanche ici en se disant oui, je viens parce que. Je viens parce que c'est fondamental, parce que j'en ai besoin, parce qu'on en a besoin. Sinon, il n'y a aucune raison de continuer à se lever le matin. Alors, ce préambule donné, vous savez que nous sommes dans les retours des fameuses figures imposées, puisque c'est le thème de l'épître aux Romains qui a été choisi. C'est un style que, pour moi, me pose beaucoup de soucis parce que j'aime vagabonder plus librement. Mais on sait, comme dans l'art, que la contrainte, normalement, crée quelque chose de fort. Et je me suis donc finalement réjoui que nos anciens aient décidé que nous soyons dans une lecture suivie de l'Épître aux Romains, car cela force à aller dans des directions vers lesquelles on n'irait pas naturellement. Donc Emmanuel avait présenté, il y a 3 semaines, je crois, l'épître dans sa globalité. La semaine dernière, Yann avait parlé du fameux chapitre 1. Donc je rappelle rapidement pour ceux qui n'avaient pu être là ou le suivre sur la vidéo. Donc l'Église de Rome abandonnait un temps de ses chrétiens juifs dont ils avaient été chassés. Ils finalement reviennent et donc il y a le problème avec les chrétiens non juifs, les Grecs, qui en leur absence ont fait vivre l'Église. Les retrouvailles sont manifestement difficiles, les modes de vie diffèrent, les morales sociales de chaque groupe se heurtent, parce que le grand risque, c'est quand la vérité de Dieu est arrangée à la sauce des habitudes quotidiennes. Quand la vérité de Dieu, et c'est Paul qui le dit, est transformée en mensonge. Quand la créature est vénérée, non plus le créateur, qu'en se vantant d'être sage, c'est-à-dire de mettre en place une religion raisonnable à la face du monde, qui va les féliciter de cette sagesse, ils sont devenus fous et se sont livrés aux actions indignes. La liste est longue, Yann nous l'a dite, vous savez, ces fameuses 17 ou 18 modes de fonctionnement totalement indignes. Nous les relirons plus tard. J'espère ne pas avoir trahi la pensée générale et vous l'avoir remise dans la tête, car nous allons continuer en nous attaquant au chapitre 2 qui évidemment est totalement dans la continuité de ce ce dont je viens de vous parler. Et ce chapitre 1 se terminait par ce verset terrible. « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Je reviens à mon préambule. Ce qu'on va dire, comme à chaque fois, est extrêmement important. Et rien que ce verset 32, qui donc terminait le chapitre 1, ils connaissent, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Il y aura un jugement de Dieu. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, que ça plaise aux gens de l'extérieur ou que ça ne leur plaise pas, que ça heurte la bonne conscience New Age de tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, nous ne sommes pas devant un super papy Dieu, un Père Noël généreux qui va ouvrir les portes à tout le monde à la fin. Finalement, c'est comme dans l'école des fans, tout le monde aura son 10 sur 10 et tout finira bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Et il faut le dire, or c'est pas facile à dire à l'extérieur, au moins disons-le entre nous, pour en être persuadé, mais c'est aussi pour ça qu'on est là ce matin. Parce qu'il y aura un jugement. Et parce qu'on ne peut pas tricher, qu'on ne peut pas mentir. Et c'est tout ce que va nous dire ce chapitre 2. L'Épître aux Romains, c'est pas une lettre, c'est une lettre aux croyants. C'est pas une lettre d'évangélisation. On peut pas la mettre dans toutes les mains, parce que les gens ne vont pas comprendre, ceux qui ne sont pas chrétiens vont être heurtés. Déjà dans le chapitre précédent, il y avait quelques condamnations très fortes qui ne vont pas du tout dans le sens de notre époque, évidemment. Et c'est une lettre dure qui dit des vérités qu'on doit entendre, qu'on doit partager et dont on doit être sûr pour ensuite pouvoir aller vers l'extérieur. Et c'est parce que ce message est dur et précis et tranchant qu'il va porter. Son irrémédiabilité et sa force. Et cette irrémédiabilité-là, les gens vont l'entendre, peuvent l'entendre, parce qu'à un moment ou l'autre de leur existence, ils vont être mis devant ce côté irrémédiable. Donc, soyons heureux d'avoir ce message à partager, d'avoir ce message à dire, comme dit Paul dans le chapitre 1, « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ensuite, les Juifs et les Grecs. Alors, le chapitre, aujourd'hui, il est fondamental, car il règle définitivement la question de notre exact rapport avec Dieu. Et ça conditionnera par ricochet notre rapport aux autres. Alors, étudier un chapitre qui définit de façon absolu, quel est notre rapport avec Dieu, ce n'est pas rien. Je veux dire, c'est la base même de notre foi, de notre présence, de notre manière d'être. Et si en plus ça gère notre relation avec les autres, a priori, c'est des choses qu'on peut entendre, qu'on doit lire, qu'on doit écouter. Notre rapport à l'autre, justement, qui est fait de jugement, de comparaison, de condamnation, c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a une violence du rapport social. La peur de l'autre, disait Yann la semaine dernière, dans le chapitre 1, qui engendre l'agressivité, le racisme, le dérèglement des échanges naturels. Car ce rapport à l'autre, qui ne privilégie que le lien avec celui qui nous ressemble, par peur, donc ça nous enferme, au lieu de nous ouvrir vers l'inconnu pour progresser. Alors il y a un exemple tout bête, c'est la voiture. En voiture, on pèse toujours contre l'autre conducteur quand il fait une queue de poisson, quand il ne respecte pas le stop, quand il va trop vite, etc. Et on se sent agressé par cette conduite-là, alors qu'on va exactement faire la même erreur quelques kilomètres plus loin. Ça, c'est sûr. Il n'y en a pas un qui conduit parfaitement bien. Et j'ai toujours été alors, très, 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 très blessé par les relations entre les gens en voiture. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est un résumé de notre manière de vivre sociale. Chacun est chez soi, dans sa petite voiture. Il est lui, c'est son identité. Et dès qu'on pénètre dans cette identité à travers, on ne rentre pas dans la voiture, mais à travers un non-respect du règlement tacite commun de la route qu'on est censé partager, eh bien, c'est tout de suite, ça dégénère en violence verbale. On va tous insulter quelqu'un. Parfois, malheureusement, ça va un peu plus loin, mais ça crée un stress. Pour monter chez moi, pour ceux qui savent, il y a une montée qui est très très abrupte et qui est étroite. Donc une fois sur deux, quand on monte, après le virage, tac, il y en a un qui arrive. C'est pas de chance. Lui, il est pour rien, je suis pour rien. Mais dans 3 secondes, il y a un rapport de force qui se met en place. Qui va être le premier à céder? Et selon qu'on a fait 10 mètres de plus, on peut se dire, bon, tu peux faire bien charrière, t'as la place. Oui, mais toi, t'es en montée, donc c'est, moi, je suis en descente, priorité. Et là, il faut laisser prise, et on arrive toujours, il y a un qui se laisse, et quand on se croise, c'est violent. C'est violent. Et moi, ça me bouleverse. Alors, de temps en temps, j'essaye de dire, calme, merci, coucou. Et tout d'un, l'autre fait, coucou. Et on est heureux, parce que ça, on a enlevé une charge émotionnelle. Et puis parfois, non, le coucou vient pas, ou moi, je suis pas en forme, il est, yeah. J'avais gagné 10 mètres, c'était à toi. Et moi, ça me bouffe, et toute la fin de ma montée, ça me dévore, ça me fait mal. Alors, c'est idiot, mais j'ai l'impression que nul n'ignore le code de la route, et pourtant, il n'est valable que pour l'autre voiture. Toujours. La loi s'impose à nous, la loi du code de la route, mais nous la détournons sciemment dans le secret de l'habitacle. Et alors vous dites que ça n'a rien à voir. Si, parce que je n'ai rien trouvé de mieux que pour le premier verset du chapitre 2. Donc là, comme c'est un truc de thème, je vais vous faire verset par verset. Je n'ai pas trouvé mieux pour avancer avec vous. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que le code de la route, mais celui qui juge le fait toujours selon un code pénal qui a été établi. Alors, pour désigner la faute, il faut la reconnaître. Alors, je reviens à l'histoire de voiture. Quand la justice nous retire des points pour excès de vitesse, il nous est insupportable de penser que le juge, même virtuel, enfin, il y a toujours un gars qui tape quelque chose, qui nous condamne, a fait sûrement les mêmes excès. Recevoir une leçon de morale par un être immoral, tout autant que nous, c'est extrêmement agaçant. Pourtant, ce n'est pas lui qui juge, mais c'est le code pénal dont il est le simple lecteur, là, le code routier. Il se contente de l'appliquer. Or, le principe de n'importe quel code légal, c'est qu'il est faillible, incomplet, ainsi que ceux qui l'appliquent. Tellement qu'on a droit d'ailleurs, et les avocats présents, hein, qu'on a droit à des procès en appel, il y a des procès en cassation, tout ça pour éliminer le risque de l'erreur, de l'interprétation du parti pris. Dans le cas du jugement de Dieu, il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucun procès en appel possible, il n'y a aucun sentiment d'injustice à avoir, de se dire « c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer ». Tout est absolument parfait. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Selon la vérité, celle qui n'est pas sujette à interprétation. Elle tranche comme l'épée. C'est comme ça. Nous, chrétiens, nous le savons. Qui irait discuter avec Dieu, si on reprend toute la liste, sur le vol, le mensonge, l'adultère, etc. Enfin, toute la liste. Alors, je vais pouvoir discuter avec ma compagnie d'assurance sur une histoire de vol, trafiquée peut-être un peu sur le fait que j'avais quand même mon ordinateur, qui avait, même si je n'ai pas retrouvé la bonne facture, mais oui, bon, je peux discuter avec mon patron sur un mensonge par rapport à mes heures faites, etc. Je peux même discuter avec ma femme ou mon mari sur l'adultère que j'ai peut-être commis, tu t'occupes plus de moi, c'est comme ça, mais tu n'es jamais présent, je n'existe plus, tu as grossi, enfin, tout est possible. On peut discuter. Je ne dis pas qu'on a raison, mais on peut discuter. On pourra même parfois s'en sortir dans la discussion. Mais devant Dieu, on ne discute pas. On ne discute pas. Et ça, les gens, ils n'aiment pas l'entendre. Parce que moi, je, dans ma petite voiture, j'ai quand même, je conduis, j'ai mon permis, je sais, donc je sais que la fameuse ligne rouge, tu ne discutes pas devant Dieu. Tu la fermes. C'est comme ça. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu, si jamais tu le contestes? Comment échapper au jugement de Dieu? Mais c'est juste reculer pour mieux sauter. Non mais quel aveuglement infantile! Je donne des cours de théâtre à la maison en ce moment à cause du couvre-feu. C'est 18h, mais les cours de théâtre, ils sont après. Au conservatoire, on arrive à se débrouiller, mais j'ai un groupe d'adultes de grâce. Donc ils viennent chez moi du coup, parce que toutes les salles sont fermées. Alors, la catastrophe, c'est que ma femme de ménage, qui est diabétique, post-traumatique, qui va chez le vétérinaire tous les 4 jours, ne peut pas venir parce qu'elle a peur d'attraper le Covid, mais elle est extrêmement sympa, donc elle vient très peu. Donc, eh ben, avant que mes élèves de théâtre ne viennent, qui sont des adultes très intelligents, alors du coup, je fais vite un... Je cache, je planque pour que ça soit propre, qu'ils n'aient pas l'impression que leur prof est un cochon. Et je cache la poussière. Bah, tu ne le diras pas à ta fille, hein. Parce qu'il y a sa fille qui vient. Zut, je me suis... Et donc, je cache la poussière très vite, parce que je fais la chose, et je cache la poussière sous le gros canapé. Ils ne vont jamais y aller. Et mais ma femme de ménage, elle va revenir lundi, là, elle peut. Je vais lui dire, écoute... Faut faire quelque chose parce que, et là je vais me faire engueuler parce qu'elle va me dire quand même, Luc, vous auriez pu faire attention, c'est pas très très sérieux. Je fais illusion devant mes élèves comédiens. La femme de ménage s'en rendra compte, elle. Mais qu'est-ce qui croit que je vais cacher quelque chose à Dieu? Non, mais qui a cette folie? Tu crois que tu échapperas au homme, au jugement de Dieu? Alors, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais j'ai jamais envie de les enfoncer, c'est marqué. C'est le nombre de choses qu'on fait dans notre existence. Et on se dit, il ne verra pas. Mais on sait qu'il verra. Mais j'oublie qu'il verra. Parce que ça ne m'arrange pas. Paul nous redit, arrêtez d'être des gamins infantiles. Arrêtez de faire ce que les autres font à l'extérieur. Dieu sait tout, Dieu a la vérité, arrête de te planquer, assume. On ne te demande pas de ne pas le faire à la limite, mais au moins assume. On verra plus tard comment ne pas le faire peut-être. Qu'avons-nous compris de Dieu si nous nous cachons de lui? On n'a rien compris, mais rien du tout. Verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Oui, c'est ça. Les évangiles nous parlent à ce moment-là de la bonté de Dieu. C'est-à-dire, on a des choses que l'on cache. On cache parce qu'on a peur. On fait des bêtises enfants, on cache qu'on a peur de se prendre une tartignole. Mais quelle est la réponse? Que crains-tu de la bonté de Dieu? Méprises-tu sa bonté? La réponse à notre peur, c'est la bonté. Que faisons-nous de l'amour de Dieu? Que faisons-nous de l'amour de Jésus? La femme adultère n'a pas reçu la condamnation, mais le pardon et le besoin de pénitence. Que faisons-nous de Dieu dans notre vie? Un juge qui terrorise? Une menace que l'on ignore? Ou un créateur qui comprend et qui soutient? Ça fait penser à cette histoire que vous avez tous vue, cet horrible fait divers. Il y a au moins 30 ans, il y a un livre, un film qui ont été tirés de cet homme qui a fait croire à sa famille pendant 30 ans ou 20 ans qu'il était médecin. Donc il partait, il traversait la frontière suisse, puis il a glandé toute la journée, puis il revenait, j'ai passé une belle journée, j'ai fait ci, puis un jour c'est devenu tellement épouvantable qu'il a flingué tout le monde, et etc. Qu'est-ce qu'on croit pouvoir cacher au fur et à mesure? D'autant qu'on a en face de nous, non pas un père fouettard, pour le moment, on a un Dieu bon, qui ne demande qu'à... Allez, ça va, baisse, viens, on en discute, et je t'aime quand même. Eh ben non. Verset suivant. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il est question de là, des œuvres, que... On revient sur le jugement, que notre endurcissement et le fait de ne pas demander pardon font qu'on s'amasse, comme notre tas de poussière, on s'amasse un trésor, le mot est beau, mais un trésor de colère. Un trésor de colère, pas de nous, mais de lui. Parce que nous refusons sa bonté, nous refusons de l'entendre, nous refusons d'aller vers lui. Et au jugement dont on a déjà parlé, à ce moment-là, ça va tomber. Et ce jugement sera rendu selon les œuvres de chacun. Alors, grande question du coup. Ah, nous les protestants, ça nous fait bondir. C'est donc les œuvres qui sauvent. Absolument pas. Je vous rappelle le début de Romains qu'on a, il y en avait lu, 1:17, il commence comme ça. Parce qu'en lui est révélé, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc soyons sûrs de ça. Le juste vit par la foi et c'est la foi qui sauve. Mais les œuvres sont seulement la preuve de notre bonne volonté de plaire à Dieu. Non par intérêt, mais par amour. Quand j'offre un livre à Nikita parce qu'elle a bien travaillé, ou je ne lui offre pas parce qu'elle a bien travaillé et que j'ai envie qu'elle travaille mieux. Je lui offre parce que je l'aime. Et que c'est simplement une manière de lui dire je t'aime autrement. Bon, il se trouve qu'en plus elle travaille bien, donc je suis content. Mais si ça se trouve, si elle travaille mal, je lui donnerai quand même parce que je l'aime quand même. Enfin, je n'agirai pas comme ça. Ce n'est pas ça qui fait que ça donne de la valeur à mon cadeau. Ce qui est intéressant, c'est simplement une manière de donner de l'amour. Les œuvres, les bonnes œuvres, j'aime pas ce mot-là, ça fait vraiment bondieuserie, ça m'énerve. Les actions correctes, notre bonne attitude dans la vie, c'est simplement la preuve de notre bonne volonté vis-à-vis de lui, de lui montrer qu'on l'aime, de lui montrer qu'on est participant de tout ce qu'il nous a donné et qu'on lui en est extrêmement reconnaissant. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans les versets suivants. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alors, il y a une autre version qui dit « Ceux qui, en pratiquant le bien, cherchent l'approbation de Dieu, recevront de lui la vie éternelle. Mais ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. » Dieu n'est pas un outil. Dieu n'est pas un moyen. Dieu n'est pas une méthode. Quand on parle de Dieu, quand on ne le vendons pas comme le super gadget de Briconaute qui vient de sortir. Il est la vérité. On ne négocie pas, on ne marchande pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est, comme dit cette nouvelle version, c'est chercher son approbation, non pas pour qu'il nous récompense, c'est déjà fait, si on est avec lui, simplement pour lui donner une preuve de son amour. La bonne action, notre bonne attitude, c'est notre manière à lui dire « je t'aime ». Et vous le connaissez, chaque fois que vous faites ça, hein, des plus petits de moi, en prison, nourriture, c'est à moi que vous dites « je t'aime ». On est dans les choses fondamentales. On va mourir, on a quelqu'un qui nous sauve de la mort, on doit lui dire « je t'aime ». Comme j'ai du mal à le voir régulièrement, je dis « je t'aime » à Emmanuel, peut-être en faisant je ne sais pas quoi, je n'aurais pas fait grand-chose pour lui. Mais quand José vient chez moi et me fait des travaux, que je suis paumé et qu'il vient, il me dit « je t'aime » à moi, parce que c'est un grand frère extrêmement sympa. Et je le prends comme ça. Mais je sais que ça permet d'établir un triangle. En fait, il dit « je t'aime à Dieu ». Et moi, j'ai la chance finalement de participer à son « je t'aime » par ma demande. Donc c'est super, ça marche bien. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu n'est pas un outil, pas de négociation, pas de marchandage, ni de gagnant-gagnant. Dieu n'est pas négociable. Il est tout ou il est rien. Il ne peut pas être présent qu'aux heures de prière, ou de famille, ou de bureau. Tu te dis chrétien, alors il n'y a pas de calendrier, pas de programme, pas d'heure d'ouverture, pas de fermeture. À Casino de Saint-Jacques, vous avez vu, ils ont fait le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est génial. Sauf qu'avec le virus, ils ferment à 18 heures. Donc ça ne tient pas. Personne ne tient le 24-24, 7 jours sur 7. Avec lui, c'est ce qu'on doit vivre. C'est l'attitude de repentance, notre attitude de repentance, le désir de changer, de vivre selon ce qu'on sait être bien, qui seront jugés au plus haut point et non le résultat. La perfection de nos œuvres est un leurre. Par contre, notre volonté, notre envie de faire mieux, d'améliorer, oui. Alors, il y a... Je vous avais dit, j'ai été quelques années franc-maçon. C'était intéressant parce que chez les francs-maçons, il y a ils disent « l'homme est fait pour progresser lui-même. Chaque jour, on taille sa pierre et on avance, et on progresse. » À un moment, je suis parti parce que moi, j'ai dit « ça ne va pas, parce que je veux bien qu'on progresse, on va progresser. Nous progressons, c'est très bien, bravo. Mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu d'en haut, qui vous tire, qui vous pousse, qui vous... comme les ascenseurs, un qui tire, un qui pousse, roue combalusier, etc. Ça ne marchera pas, c'est une illusion. Ça ne marchera pas. Nous progressons, nous devons progresser. Être avec Dieu ne veut pas dire qu'on va s'arrêter. Il faut chaque jour progresser dans nos attitudes, dans nos actions. Mais parce que c'est Dieu qui nous tire, c'est Dieu qui nous lève le regard. Sinon, c'est une illusion. Alors, c'est une belle illusion, il vaut mieux ça que rien du tout, mais c'est totalement insuffisant. Je vais vous raconter un exemple. Il y a un autre verset dans Philippiens 2, verset 13, qui dit « C'est parce qu'il nous a pardonné que nous sommes rendus capables de pardonner. C'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » C'est ça. C'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. J'étais mardi ou jeudi, je ne sais plus, dans les rues de Grasse pour un spectacle, fait que je me promène dans les rues, pour enfin, totalement inintéressant. Et soudain, devant la cathédrale, j'ai une dame noire, elle est noire, elle est grosse, elle n'est pas dans un état tout à fait normal. Donc là, l'altérité dont parlait Yann, c'est tout ce que, voilà, même pas, après j'étais occupé, je travaillais et tout. Elle me vient, elle me dit, est-ce qu'il y a un peu d'argent ? Au pied de la cathédrale en plus, tu vois. Non, tu dis, non, j'ai pas envie. Je m'enferme dans ma voiture, je franchis la ligne rouge et stop, c'est mon code, j'ai pas envie. Non, madame, je ne peux pas, je mens, j'ai de l'argent, j'ai un euro, bien sûr. Et je pars, et je continue. Et je fais 100 mètres, je la retrouve un peu plus bas. Et là, je vois une dame qui parle avec elle, qui l'écoute. Et bon, elle est sympa, et ça me remue un peu. Puis je dis, bon, c'est bien, il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle. Je repars, je refais mon tour, parce que je compte le nombre de pas, etc. Et je la revois dans la rue, comme ça. Toi. Pas grosse, pas noire, mais toi, tu vois. Mais je te jure. Je dis, mais c'est elle. C'est putain. Ah, j'étais mal. Je dis, bon, excusez-moi, j'ai pris les trucs, j'ai donné, je dis, excusez-moi, madame, je vous donne 2 euros, parce que je me sentais mal. Et je suis parti, j'ai fui, il m'a dit, mais monsieur, parlez. Non, je ne veux pas parler non plus, j'arriverai pas. Mais bon, au moins ça, je... Voilà, c'est rien, c'est ridicule, mais je l'ai fait par amour de Dieu, parce que moi, j'étais nul, cette femme, je ne ferais rien pour elle, je suis un égoïste, c'est monstrueux, c'est affreux. Mais la voir comme ça, j'ai l'impression que, voilà. Et là, je me suis dit, rien, rien. Et je ne demande pas que Dieu soit content de ça. Mais simplement, si je suis un tout petit peu meilleur qu'avant, depuis que je suis chrétien, c'est que quand je vois ça, je vois cette femme, sa douleur, j'y peux rien, sa désespérance, c'est très mal, mais Dieu est en elle. Et moi, je ne fais rien, un grain de sable. Mais si je peux participer à ce moment-là, à ce que Dieu a mis au fond de moi, même si j'aurais dû, voilà, je ne peux pas faire autre chose parce que je suis nul, voilà. Mais c'est parce qu'il nous a pardonné que nous sommes rendus capables de pardonner. C'est parce qu'il nous a aimé que nous sommes rendus capables d'aimer. C'est parce qu'il nous a donné que nous sommes capables de donner. Chacun fait ce qu'il peut, on est mauvais, on est mal. Mais il y a plein de gens qui disent, mais Luc, t'as vu, t'es chrétien, mais regarde, tu fais ça. Je dis, mais oui, mais si j'étais pas chrétien, ce serait pire. Je serais même mort. Ou je t'aurais violé 4 fois, ou je t'aurais volé 10 fois, ou j'aurais les cheveux encore plus longs, je sais pas, enfin, c'est... Ne vous laissez pas agresser par les gens qui disent « tu vaux rien, t'es chrétien, tu... » Oui, et alors, si je ne l'étais pas, je serais une pire. Il nous a déjà sauvés de ça. On a déjà fait des efforts, on a déjà fait des progrès. Et chaque jour, vous pouvez vous dire à vous-même « bah oui, bah ça, je l'ai fait. Si je n'étais pas avec Dieu, je ne l'aurais pas fait. » Voilà, c'est comme ça. C'est pas suffisant, c'est pas assez, on sait. Mais n'éteignez pas cette petite lumière qui fait même que si vous donnez 1 euro à cette femme pour 1000 raisons, que j'ai vu ma sœur faire ça et que ça m'a été un coup de poing. Ne relâchez rien. Ne relâchons rien. Même ça. Même si on est digne de rien, ne relâchez rien. On est la lumière de Dieu. Même ça. Ne relâchons pas. C'est ce que dit ce texte. C'est ce que dit ce texte. Je continue. Versets 9 à 10. Donc, vous souvenez, il réserve la vie éternelle à ceux qui persévèrent, et puis l'irritation et la colère à ceux qui sont rebelles à la vérité et obéissent à la justice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Nous ne sommes pas à une table de poker à jouer des allumettes ou quelques euros avec Dieu. Dieu n'est pas un partenaire de jeu, n'est pas un collaborateur, un ami, c'est même pas un adversaire ou un concurrent. Dieu, c'est très au-dessus de ça. Dieu, c'est notre créateur. Et si nous sommes chrétiens, on a mis la barre très, 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 très haut. Et lui, il a voulu qu'on mette la barre extrêmement haut, le plus haut possible, le plus haut. Le contrat qu'on a signé à notre conversion nous engage au maximum. Et c'est un contrat, je rappelle, qui a été signé avec son sang. Alors ça fait un peu image truc, mais Faust et tout, mais c'est vrai ça. Signé avec son sang, pas avec le nôtre, avec le sien. D'habitude, un contrat, il y a les deux qui y signent. Alors si on s'amuse à faire quand on était gosse, on faisait ça. Lui, il n'y a que lui qui a mis, il y a mis tout lui. Les épines, le sang, les croix, les clous, nous on n'a rien mis. Rien. Rien. Et le contrat, il est quand même valable. Il n'y a aucune clause de retrait. Il n'y a pas de dédit après délai de réflexion. Même si nous, je ne dis pas ça de notre part à nous, de sa part à lui, tu as signé, tant que tu me parles encore, quand tu es, c'est bon, c'est valable. Tu ne peux pas te rétracter. Ce n'est pas un contrat extraordinaire, ça. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce contrat-là? Il y avait une aventure, une fois, vous savez, il y avait des gens qui font des pubs sur les voitures. Genre mes voitures, ça me revient, c'est pour ceux qui font des excès de vitesse en permanence, je ne sais pas, ça va. Ou comme moi, enfin pas trop. Il y en a d'autres pires ici, c'est bien. Alors, donc vous savez, il y avait des grandes voitures, il y avait des voitures et on met des pubs dessus. Et on gagne, le gars vous file 500 euros si tout le mois, ben, quand vous circulez avec les matelas d'un lopio, fonctionnent. Bon, c'est un peu ridicule, mais c'est pas grave, au moins tu marches comme ça. Et il y a un gars qui avait fait ça, et puis dès que le soir il sortait du boulot, il avait trouvé une ruse pour recouvrir, et puis il partait voir ses copains et tout, et que sa voiture neutre. Donc il a été évidemment piégé par le gars, le promoteur, il a eu un procès, etc. Mais avec Dieu, la visibilité de la pub, elle est permanente. Tu as signé un contrat sur ta voiture, il y a marqué « Je suis chrétien, Dieu est avec moi », tu ne l'enlèves pas, tu ne peux pas l'enlever. Et quand tu crois l'enlever en planquant, bah, c'est pas de chance, les lettres sont transparentes, ça se voit encore plus. Arrête de vouloir te planquer, arrête de vouloir l'enlever, arrête de faire comme si... Ce n'est pas possible, tu es marqué au fer rouge. Assume-le, vis-le. Les conséquences de cet engagement sont à la hauteur de notre chef, de notre boss. C'est gloire, honneur et paix qu'il y a marqué. Gloire, honneur et paix. J'ai un petit contrat d'assurance vie. J'étais voir mon banquier l'autre jour qui était heureux de m'annoncer. Mais tu te rends compte, avec la crise, tu as fait plus de 2%. Alors, je suis très bien, je suis très très content. Mais là, on est dans du plus 1000%. Là. On est dans de la croissance, dans du contrat assurance éternité. Ce n'est pas du contrat assurance vie. Il y a une chanson de Christophe Maé qui dit « Il est où le bonheur, il est où ?» Vous savez, « Il est où le bonheur, il est où ?» Elle est bien cette chanson, ça j'aime bien. Je la mets pas, je vous ai déjà mis Joe Dassin, Maradona, je vais me calmer. Hein. Vous avez échappé à Christophe Maé. Mais la réponse de tout homme est dans ces mots, gloire, honneur et paix. Il y avait une série américaine qui s'intitulait Amour, gloire et beauté, vous vous souvenez? Ben, c'est pas le même programme. C'est pas le même programme. Notre foi nous pousse aux actions qui sont le plaisir de notre Dieu. Et elle nous procure la gloire, et pas celle des journaux ou de la télévision, celle de faire partie du camp du vainqueur. L'honneur, d'être compté parmi les combattants, et la paix, qui est la certitude d'avoir fait les bons choix. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les Français ils étaient dans le camp des vainqueurs. Tant mieux, merci mon général. Mais ceux qui, dès le premier truc, s'étaient engagés, avaient été résistants, etc., eh ben, je pense, même si après tout le monde s'en est fichu, que eux, ils avaient vraiment la paix le soir quand ils s'endormaient de dire... Cette victoire-là, je suis content d'avoir partagé avec le général, en m'étant engagé avec lui, en ayant pris des risques, en ayant combattu. La gloire, l'honneur et la paix, il les avait mérités. C'est notre récompense, gloire, honneur et paix. Mais en cas de fraude, de non-respect, les dividendes s'appellent, verset 9, « tribulation et angoisse sur toute l'âme, l'âme de l'homme, qui, etc. » Tribulation, c'est l'adversité, les aventures désagréables, les dépressions et angoisses. Ok ? Revenons à mon histoire de Seconde Guerre mondiale. Le collabo qui a réussi à se planquer et à ne pas être pris, très mal le gars. Il participe à la victoire en quelque sorte, il en a les fruits, mais au fond de lui, il va traîner toute sa vie jusqu'à ce qu'il se fasse récupérer par le fait qu'il a été du mauvais côté et qu'il n'a pas du tout fait le bon combat. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi, parfois je fais des cauchemars, j'ai fait une grosse bêtise. Tuer quelqu'un, c'est rare, mais un gros mensonge, un truc vraiment moche. Et dans ma vie, je me dis, mais c'est pas possible, je vais traîner ça toute ma vie, les gens vont le savoir, donc je me dis, chaque jour, je vais avoir peur que ça se sache. Puis à un moment, je me réveille, et pendant 10 secondes, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oh mon Dieu. Et puis après, je me dis, mais non, c'était un rêve, donc j'ai rien fait de mal. Et on ne peut rien me reprocher. C'est extrêmement agréable, parce que cette angoisse, cette tribulation intérieure, de se dire, je me suis planté, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire, et ça va se savoir un moment ou l'autre, donc si, tant que ça ne se sait pas, je suis protégé, mais je vis avec cette épée de Damoclès, c'est épouvantable. C'est absolument épouvantable. Pensez à ce pauvre Cahuzac. Vous savez, notre ancien ministre du budget, qui fermait toutes les frontières pour tous les gens qui faisaient de la fraude fiscale et qui avaient un compte en Suisse, aux Bahamas, etc. Vous vous rendez compte, le gars, il accepte une démission du budget alors qu'il sait qu'il a ces comptes-là. Mais ça a dû être terrible. Et quand on lui dit... Ben monsieur, vous avez... Non, non, les yeux dans les yeux, le botox dans le botox, je n'ai pas ça. Mais c'est horrible. Bon, finalement, ça s'est très très mal fini. Je pense qu'il va bien mieux maintenant que tout ça. Au fond, il a été condamné, c'est terminé. Il n'y a pas de plus grand bonheur que nous donne Dieu que, je répète, ça peut paraître idiot parce que ça fait vraiment série américaine, mais c'est gloire, honneur et paix. Parce que l'inverse de l'angoisse, et je demande à quiconque ici ne s'est pas trouvé une nuit seul, c'est toujours la nuit que ça arrive, seul en train de se réveiller, pas dormir, et là tu as tout qui y vient, tout ce que tu as fait, et l'angoisse qui monte et que tu n'arrives pas à maîtriser. Alors tu te lèves, tu vas boire un coup, tu allumes la télé, tu téléphones à une âme charitable si elle peut répondre pour chasser cette angoisse d'un truc que tu as au fond de toi. Ça c'est pas la paix de Dieu. Alors, notez qu'il est question dans ces deux versets à chaque fois du juif et du grec. Hein, si, premièrement au juif, secondement au grec, ça c'est à remettre dans le contexte de la situation à Rome. Mais l'important, c'est le verset 11, qui est juste après. Donc il dit les juifs premièrement, puis le grec. « Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Nous sommes tous égaux. » Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, il y a le pacificateur, là, le nettoyeur, comment, Pierre, il s'appelait, qui était venu. Marathon, qui a fait quelque chose sur les ouvriers de la première heure, les ouvriers de la dernière heure. C'était super, parce que c'était... Voilà, on est tous égaux, l'ouvrier de la dernière heure, celui de la première heure, le juif, le non-juif, le chrétien, le non-chrétien, on est tous égaux. Ouh là là, vous allez me dire, ah non, là il y a un gros problème. Tout le monde n'a pas le choix de devenir chrétien, donc tu ne peux pas dire ça, on n'est pas tous égaux, parce que les pauvres, qui eux, n'ont pas été au courant de l'existence de Dieu et de nous, de notre Bible, ben lui, il se fait avoir, il ne peut pas savoir. Et pourtant, il est bien dit, devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Ça, c'est une question qui va intéresser tout le monde. Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça va embêter tout le monde. C'est violent, c'est... Bref. Ça, par contre, c'est philosophique. Ça pourrait faire une émission sur C'est à vous, sur CNews, avec Pascal Praud ou Zemmour. Je vous pose la question, vous avez 2 heures pour répondre. Peut-on être tenu coupable d'avoir enfreint une loi qu'on ignore ? Je répète, peut-on être tenu coupable d'avoir enfreint une loi qu'on ignore ? Alors, 2 exemples. 4 exemples, en fait. Alors, 2 exemples personnels, parce que je ne sais faire que ça. Une fois, j'ai été en Turquie, à Constantinople. Non, comment ça s'appelle, la capitale, la Turquie ?
Istanbul.
Istanbul. Oh, voilà, tu vois. Ancien grand Constantinople. Et je suis rentré dans une des grandes mosquées chaussée. Oh mon Dieu ! Ils sont venus à 4, j'ai cru qu'ils allaient me zigouiller. Non, excusez-moi, je ne savais pas. J'enlève, je me mets tout nu s'il faut, j'enlève tout. Excusez-moi, je respecte. Une fois, j'étais en Angleterre, j'étais très jeune, je sors du ferry, je fais les 20 premiers mètres, évidemment, à droite. Donc, les voitures, le flic, vous êtes fous, excusez-moi. Je savais, mais j'avais oublié. Quoi. C'est à gauche, d'accord. Vous connaissez Blaise Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Plus loin, Montaigne, chacun appelle barbare ce qui n'est pas de son usage. D'accord ? Donc, en fait, la vérité, être tenu coupable de quelque chose que l'on ignore, ça tient pas. Je pense qu'avec avec un bon avocat, on pourrait arriver à trouver une solution parce que si on ne sait pas, on ne peut pas être accusé totalement. Donc, si on applique ce raisonnement à la Bible, il y a toute une partie de la population qui n'est pas concernée par ce qu'on raconte parce qu'ils ne sont pas au courant. Or, je maintiens que cette Bible et ce chapitre, c'est pour tout le monde, pour tous les êtres humains. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul, donc c'est Dieu. Car les versets qu'on va lire maintenant vont rendre universel tout ce qu'on a dit sur Dieu, sur son rapport avec lui, sur donc le rapport avec les autres. Car chaque être humain est un chrétien, qu'il s'ignore ou non. Ça aussi, ça ne va pas faire plaisir, mais c'est comme ça. Donc, on va lire les versets 12 à 15. On arrive. Hein. Je ne vais pas battre les records de Yann et d'Emmanuel. Je vais. Ben, les plus bas. J'ai moins de choses à dire, je suis désolé. J'en suis à 40 là? J'ai quasiment fini. Vous étiez à 1h11, hein, donc j'ai du délai. Hein. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. La loi n'est pas supérieure à l'être humain. Elle ne le précède pas. Elle est la conséquence de l'humain. Dieu a dû créer une loi car l'homme s'était détaché de Dieu intrinsèquement, profondément, au jardin d'Éden. En ayant goûté aux fruits de la connaissance du bien et du mal, il provoquait la mise en place de la loi qui sépare le bien et le mal. L'interdiction de Dieu à Adam et Ève sur le fruit à ne pas manger n'est pas une loi. Vous pourriez me répondre ça, il y en avait une avant. Non, ce n'est pas une loi, c'est un cri d'amour. À une époque, pour faire une image facile, l'adultère était une faute punie par la loi. On pouvait divorcer, tu as fait une faute, tu as couché quelqu'un d'autre. Plus maintenant. En fait, maintenant, ce qui est mal, le bien et le mal de la loi, c'est la violence conjugale, la non-participation aux frais du ménage, l'abandon du domicile, on ne s'occupe pas des enfants, etc. Mais tromper sa femme ou son mari, c'est plus du tout une faute. On n'est plus dans le bien et dans le mal. Et c'est très bien comme ça. Parce que l'infidélité, c'est juste la fin de l'amour entre deux êtres. La fin, la parenthèse. C'est à toute époque, à toute civilisation, nonobstant évidemment la place de la femme qui est faite, etc., mais au fond du cœur de chacun, la personne avec qui tu es, à qui tu partages le plus d'intimité, s'il y a une rupture de cette fidélité-là, c'est profondément, intrinsèquement, la fin d'une histoire d'amour. Où c'est l'infidélité du sentiment, elle n'a à voir qu'avec notre conscience. Et c'est ça dont parlent ces quelques versets. La conscience, celle dont il est question dans ces versets. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Quiconque est humain avec les ressources mentales normales d'un être humain, a au fond de lui la conscience de Dieu, la conscience du bien et du mal. Ecclésiaste 3:11, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors, il y en a qui sont nés avec la Bible, il y en a qui sont nés de parents chrétiens, il y en a qui sont nés d'autres religions, mais c'est mensonge que de dire « je ne savais pas ». Je vous ai dit, nul n'est censé, enfin la loi il faut la connaître, d'accord? Alors on peut dire, mais moi je ne peux pas être jugé, je ne connaissais pas la loi, c'est pas vrai. Nul n'est censé ignorer la loi, chaque fois vous faites une erreur, il y a le flic qui vous dit, bah oui mon vieux, mais c'est comme ça. Article 22, chapitre 37, alinéa 4, je ne savais pas. Nul n'est censé connaître la loi à 135 €. La loi de Dieu, nul n'est censé l'ignorer, parce qu'elle est dans notre cœur. Tout le monde là. Tout le monde a ça au fond de lui. Le verset 15 que je viens de lire, il dit vraiment tout. Il parle du combat intérieur, leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Mais le combat, le bon, pas celui qui est dicté par les lois coercitives des religions, toutes les religions, tu feras ça, tu feras pas ça, ça c'est bien, c'est à telle heure, il faut pas, tu un truc, paf, pim, pam, tu mangeras du poisson, pas. Non, c'est celle dont parle Jacques dans 2.12, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. C'est celle-là même qui est écrite dans nos cœurs et notre conscience du verset 15. Nous avons tous cette conscience de Dieu, cette conscience du bien et du mal qui est supérieure à tout ce que les religions ont pu en faire. Et cette loi du bien et du mal, c'est une loi de la liberté. C'est une loi qui va nous dire, libère-toi de ce qui te fait du mal, qui est le mal. Et cette liberté, profites-en pour aller vers ce qui va te faire du bien. Et on remonte surtout Dieu qui est bon, gloire, etc. C'est une loi de la liberté qui nous juge. C'est pas une loi de l'enfermement, une loi de l'interdiction. Ce chapitre, il est totalement révolutionnaire. Il montre la présence de Dieu dans le cœur de chacun, dans le cerveau de chacun. Aucune excuse pour personne de toutes nos actions commises durant toute notre vie. Nous le savions, et tout le monde le sait. Ah, mais moi je peux pas, moi je suis musulman, moi je peux pas, je suis hindouiste, moi je peux pas, je suis juif, je peux pas comprendre. Non, tu sais. Et toi, et c'est ce que dit ce chapitre, et ceux qui prendront la suite, toi qui es juif, etc., notre responsabilité, elle est 10 000 fois plus grande. Parce que nous, on n'a pas eu besoin de fouiller au fond de nous-mêmes, de dire quand même, c'est ce que je fais, là, truc. Nous, ça nous a été donné. Alors, soit parce qu'on est né avec grâce à nos familles, soit parce qu'on s'est converti. Nous, on est donné. On a reçu ça. Tout y est. Alors, on a encore moins la possibilité, la liberté de dire, oh là là, je ne savais pas. On le savait. On le savait. Quand ils ont été chercher les Allemands qui vivaient à côté des camps de concentration, ils disaient, on ne savait pas, mais tu rigoles, tu étais à 3 mètres, tu entendais les cris, tu voyais les cendres qui. On le savait. Enfants de chrétiens ou non, chrétiens convertis ou non, nous savons que Dieu existe et nous connaissons sa loi, ici ou en Asie ou ailleurs, aujourd'hui ou dans l'Antiquité ou à notre époque, que nous soyons juifs ou grecs, comme dit Paul. Mais nous savons qui, ici. Nous savons que ici nous avons plus de responsabilités que les autres, car notre apprentissage est complet, grâce à ceux qui nous ont instruits et surtout grâce à notre Bible. Ne soyons pas comme les accusés du procès de Nuremberg, donc la Seconde Guerre mondiale, j'aurais tout fait ce soir, aujourd'hui, dont la ligne de défense était nous ne savions pas la finalité des ordres que nous donnions. Oui, j'ai donné ces ordres-là, de mettre les Juifs dans des wagons, mais je ne savais pas la finalité. Je ne suis qu'un rouage. C'est une excuse qu'on pourrait peut-être donner, mais nous, nous la connaissons. Et je terminerai sur ce verset, puisque je m'arrête au verset 16, c'est le dernier. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et regardez on a bouclé la boucle avec le dernier verset du chapitre 1, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, on y est maintenant, à ce jugement-là. C'est dit, c'est implacable. Nous pouvons échapper durant notre passage terrestre à la révélation de nos agissements coupables et de nos pensées indignes. Nous pouvons faire illusion devant nos contemporains. Avec un bon avocat, nous pouvons même tromper la justice des hommes. Mais nous n'échapperons pas, après la mort, à la révélation de la vérité. Car celui qui aurait dû être notre avocat, Jésus, ne pourra rien faire pour nous. Parce que nous serons notre propre accusateur. Sans dire un mot, juste en voyant défiler, dévoiler la totalité de notre existence. Nous nous accuserons nous-mêmes par nos actions et nos pensées mises au grand jour. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a l'affaire Duhamel, l'affaire Richard Berry, c'est l'histoire épouvantable d'inceste. De temps en temps, quand je suis en voiture, j'écoute l'émission sur Europe 1 de Ondelat raconte. Il raconte des histoires de crimes, des choses affreuses. Et plein, plein de fois, on ne sait pas, c'est parole contre parole, la justice a dit ça, etc. Et souvent, on dit, il a emporté son secret dans la tombe. Peut-être que M. Duhamel, M. Richard Berry, je ne juge pas, personne ne saura, c'est parole contre parole. Ils emporteront leur secret dans la tombe. Et puis là, on dit que c'est terminé. Mais non. On n'emporte pas le secret dans la tombe. Parce que la tombe n'est pas la fin. Il y a un jugement après la tombe. Je parlais de contrat tout à l'heure. Vous vous souvenez, dans le contrat qu'on signe avec lui, qui signe en fait avec nous, pour nous, il n'y a pas de clause de confidentialité. Il y a un jugement après la tombe. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est la première fois dans ce chapitre que Jésus est cité. Avant, c'était Dieu, 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 Dieu. Pas un hasard. Yann nous disait que l'ignorance de l'autre, la peur de l'autre, était le creuset du jugement, des vices. C'est l'altérité qui effraie. Pas Jésus. Pas Dieu devenu homme pour se confronter à sa créature. Devenir sa créature, être complètement l'autre, cet autre qui le remettait depuis la fin du jardin d'Éden, très loin de lui. Il aurait pu dire cet autre qui, moi, mais bon, cet autre me rejette, il me fait peur, il ne m'intéresse pas. Non, il vient, il y va, il se met avec nous. Jésus, lui, il peut connaître les actions secrètes des hommes, les pensées secrètes, nos tourments, nos tentations. Il fut des nôtres. Je parlais au début du juge qui nous retire des points pour un excès de vitesse qu'il pratiquera lui-même forcément à un moment ou l'autre. Et ça nous est insupportable, ce sentiment d'injustice. Mais avec Jésus, toutes nos actions secrètes seront révélées par quelqu'un qui les aura toutes vécues potentiellement, mais auquel il n'aura jamais succombé. Relisez la liste que Yann nous avait dit de chapitre 1 de Romains sur les fameuses méchanceté, injustice, cupidité, malice, envie, meurtre, querelle, ruse, malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Il a été confronté à tout ça, il aurait pu succomber à tout ça, il n'a jamais succombé à tout ça. Donc ne disons pas, oui Dieu, d'accord, enfin tu nous as mis une barre très haute parce que là c'est pas possible. Jésus dit, attends, moi j'y étais. Je sais. Alors, je sais exactement ce que tu as vécu. Et là, encore une fois, c'est pas comme dans ce qu'on avait dit, c'est pas attention, c'est je suis plein de bonté, je le sais, alors viens, on va en discuter. Quelle honte absolue pour chacun d'entre nous, à un moment ou l'autre de nos existences. Alors, je parle pour moi, j'ai des hontes. J'ai tant de honte de certains de mes jours, de certaines de mes nuits, où je pensais, où je voulais penser stupidement que j'échapperais à son jugement. Je préfère, et c'est ce que nous dit ce chapitre, c'est pour ça qu'il est fondamental, je préfère et je veux croire qu'à cette honte, j'échapperai et que j'aurai droit à la gloire, à l'honneur et à la paix. Car si je suis fidèle à ma promesse de l'aimer et le suivre depuis le jour de ma conversion, lui, il sera fidèle à sa promesse d'effacer ma honte. Le jour du jugement, il va effacer ma honte devant son Père au moment où les images vont être projetées. Et il lui dira, quand j'apparaîtrai, moi, honteux, mais ça y est, tout va ressortir comme dans mes cauchemars. Père, ne le juge pas. Il est avec moi. Je réponds de lui. On efface. Viens. Viens. Voilà.